BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La tension n'a cessé du week-end entre les États-Unis et l'Iran. Marco Rubio a exhorté cette nuit la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des États-Unis pour, je cite, protéger le transport maritime mondial dans le détroit d'Ormuz. On va faire un point précis avec Annalisa Capellini. On va voir aussi les conséquences sur le pétrole avec Nicolas Pagnès dans un instant. Et puis Andy Burnham prend les clés de Downing Street ce lundi. Réparer les services publics, stimuler la croissance, incarner le changement, rien que ça, sur la feuille de route du nouveau Premier ministre. On va faire le point à Londres. Ce sera à 7h30 avec notre correspondant. Les autres titres ce matin, Léo.
Des tensions également en mer Noire. Un navire commercial a été touché par des missiles russes. Les banques se prononcent sur la restructuration de casinos aujourd'hui. Et puis députés et sénateurs planchent sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Dans la prochaine heure, on verra que la jeunesse indienne est dans la rue. Le mouvement des cafards prend de l'ampleur à New Delhi et défile ce lundi jusqu'au Parlement pour dénoncer les scandales qui touchent l'enseignement supérieur. Ces cafards menacent-ils Narendra Modi? On posera la question à Annalisa Capellini dans Le Monde qui bouge tout à l'heure. Et puis, comment protéger notre souveraineté économique? Comment attirer les investissements étrangers? La remise du rapport sur la sécurité économique, c'est demain. On va en parler ainsi que de la loi de programmation militaire et du contexte géopolitique avec Jean-Louis Thieriot, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Il sera mon invité à 7h45 dans le Grand Entretien. La matinale de l'économie, c'est parti. Soyez les bienvenus.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Good morning business, le journal.
Et pas de répit au Moyen-Orient, Léo.
C'est le même schéma qui se répète ce matin pour la 9e fois consécutivement. Les États-Unis frappent l'Iran. L'Iran frappe ses voisins du Golfe et des navires dans le détroit d'Ormuz. Et Annalisa Capellini, il n'y a aucune perspective de sortie de crise.
Oui, puis vous l'avez dit, c'est absolument le même schéma avec des frappes américaines qui ont ciblé tout particulièrement les infrastructures iraniennes. Selon l'armée américaine, les raids de la nuit ont visé des centres de commandement militaire, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, mais aussi des sites de lancement de missiles ainsi que de réseaux de communication. Il y a un but très clair, c'est de limiter la capacité de l'Iran à frapper les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz. Les Iraniens, eux aussi, donc, ont touché des cibles militaires américaines dans la région, au Koweït notamment, où l'armée dit faire face ce matin à des attaques de drones, et en Syrie, où les gardiens de la révolution disent avoir mené une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales.
Et puis il y a un pays qui devient de plus en plus la cible des Iraniens, Annalisa, c'est la Jordanie.
Oui, c'est en Jordanie, en effet, qu'il y a eu lieu l'attaque iranienne de ce week-end. Attaque qui a fait 2 morts et 1 disparu parmi les forces armées américaines. C'était la dernière d'une série d'attaques iraniennes, toutes dirigées contre les soldats américains en Jordanie. Pourquoi cibler autant ce pays? Eh bien, parce que c'est la pièce maîtresse de la stratégie américaine au Moyen-Orient. La Jordanie abrite des bases stratégiques, elle abrite des troupes aussi qui ont été relocalisées d'autres pays du Moyen-Orient. C'est de là que les États-Unis peuvent mener des frappes aériennes particulièrement efficaces aussi. Selon ce que certaines sources ont déclaré au New York Times, attaquer la Jordanie signifie donc attaquer la coalition régionale américaine et surtout essayer de faire en sorte que le coût politique de la présence des forces américaines soit supérieur aux bénéfices militaires.
Merci Annalisa, et tout ça pèse donc sévèrement sur les cours du pétrole. Ce matin, Nicolas Pagnès, on revient sur des plus hauts du mois de juin.
Oui, le pétrole est repassé cette nuit au-dessus des $90 le baril de Brent, en réaction donc à cette 9e nuit consécutive de bombardements dans le détroit d'Ormuz. Le baril de WTI a de son côté dépassé les $85 cette nuit pendant quelques heures avant de revenir aux alentours des $84. Des niveaux qui restent loin des sommet de mai dernier où le baril de Brent avait atteint les $110, mais qui montre que même si le scénario central des marchés est que ni l'Iran ni les États-Unis n'ont intérêt à ce que le conflit dure, chaque nouvelle journée de tension apporte un peu plus de fébrilité sur les cours. Il faut dire que pour endiguer la hausse des cours du pétrole depuis le début du conflit, plusieurs pays ont débloqué d'importantes quantités de leurs réserves stratégiques, des stocks que les pays doivent à présent reconstituer, ce qui va continuer à porter les cours d'un côté, mais qui va surtout empêcher de contenir le prix du du pétrole si le détroit d'Ormuz reste fermé trop longtemps. Pour bien le comprendre, les stocks pétroliers mondiaux ont diminué de 360 millions de barils entre mars et mai dernier, pour ne rebondir que de 21 millions en juin. Aux États-Unis, par exemple, les réserves stratégiques de pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis 1984.
Merci Nicolas Pagnaise. Et puis dans le même temps, ça chauffe aussi en mer Noire. Un navire marchand turc sous pavillon de la Guinée-Bissau a été frappé par 3 missiles de croisière russes hier, selon la marine ukrainienne, qui affirme que 5 marins ont été tués et qui dénonce là une attaque délibérée contre un bateau civil sans menace militaire. Et plus tard dans la nuit, 400 drones ukrainiens ont été lancés vers Moscou, selon le maire de la ville, qui lui affirme que 6 personnes ont été blessées.
L'actualité des entreprises, une étape importante dans la restructuration de Casino, Léo.
Les banques françaises doivent voter aujourd'hui le plan de sauvetage du propriétaire Daniel Kretinsky. Il s'agira surtout de se prononcer sur une mesure, celle qui prévoit d'exclure les autres créanciers qui veulent prendre le contrôle de Casino, Mathieu Pechberti.
Après 6 mois de négociations vaines, Casino lance son offensive contre une partie de ses créanciers. Le groupe de distribution a demandé à 6 banques françaises de revoir leurs garanties pour contourner l'avis d'autres prêteurs. Elles doivent aujourd'hui renoncer à une clause qui impose un accord de 2/3 des fonds d'investissement qui ont prêté il y a 2 ans 1,4 milliard d'euros à Casino. Ces 9 créanciers refusent le plan de sauvetage de Daniel Kretinsky, qui leur octroie seulement 1/4 du capital du distributeur contre l'effacement de 40% de ce prêt. Il menace de saisir la justice pour contrer ce passage en force et propose de renoncer à la totalité de leurs prêts pour prendre 100% de Casino et éjecter le milliardaire tchèque. Leur opération serait soutenue par la banque Barclays, qui a déjà aidé des fonds d'investissement à reprendre Atos il y a 2 ans. Cette guerre sans fin embarrasse les administrateurs judiciaires de Casino, qui comptent désormais sur le tribunal de commerce pour forcer Daniel Kretinsky à faire des concessions et obtenir l'accord des créanciers.
Il est 7h05 et c'est jour de commission mixte paritaire sur le projet de loi qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, après l'adoption à l'Assemblée et au Sénat de 2 textes très différents, et entre-temps, les quelques réserves émises par Bruxelles, députés et sénateurs vont tenter de s'accorder sur un texte commun avec l'espoir d'une application dès le 1er septembre, Erwan Maurice.
En aucun cas, l'avis de Bruxelles signifie que la France ne peut pas agir pour légiférer. Voilà ce que nous dit le cabinet de la ministre du Numérique, confiant sur l'adoption du texte, même si des points doivent être retravaillés aujourd'hui en commission mixte paritaire. Car Bruxelles note des incompatibilités avec la législation européenne. L'une, visiblement, concerne le principe introduit par le Sénat de liste noire de réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. La Chambre haute conteste l'idée d'une incompatibilité européenne et se défend. Une interdiction générale et absolue des réseaux sociaux ferait courir le risque que la loi soit inconstitutionnelle et donc inapplicable, dit le Sénat. La commission mixte paritaire devra trancher sur ce point. Le texte parlementaire prévoit aussi de confier à l'ARCOM la mission de veiller au respect du dispositif d'interdiction et de signaler les éventuels manquements. Bruxelles répond que le gendarme de l'audiovisuel et du numérique doit rester dans son rôle et n'a donc pas à établir de critères pour décider des plateformes qui pourraient ou non être accessibles aux moins de 15 ans. Là encore, un point que les parlementaires devront donc retravailler.
Et ce soir dans l'hémicycle, suspense maximal sur le projet de loi d'urgence agricole qui est soumis à l'ultime vote des députés, mais la réintroduction d'un volet sur les pesticides fait planer le doute sur l'adoption du texte. La gauche est contre, le bloc central est divisé. Les différents groupes de la coalition gouvernementale sont donc convoqués à Matignon cet après-midi pour questionner justement le maintien ou non dans le texte des mesures sur ces néonicotinoïdes.
Et pour terminer, la retraite progressive qui commence enfin à décoller, Léo.
Oui, c'est le dispositif qui permet de toucher une partie de sa pension tout en continuant à travailler à temps partiel. Alors, peu utilisé jusqu'ici, les derniers chiffres publiés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse nous disent maintenant que les dernières réformes sont visiblement en train de changer la donne. Caroline Morisseau.
La progression est spectaculaire. En 1 an, le nombre de bénéficiaires a quasiment doublé pour atteindre 66 800, un rebond inédit lié selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux nombreuses réformes de ces dernières années. Le dispositif a été élargi aux fonctionnaires, les contraintes des employeurs ont été renforcées. Ils peuvent moins facilement s'y opposer, sauf en cas d'incompatibilité avec l'activité de l'entreprise. Enfin et surtout, depuis septembre l'an dernier, suite à un accord des partenaires sociaux, la retraite progressive est désormais accessible des 60 ans et non plus 62. Toutes ces réformes ont aussi permis de faire parler de ce dispositif peu connu jusqu'ici. Les salariés dans les grands groupes essentiellement, où il est plus facile de passer à temps partiel, n'hésitent plus à s'en saisir, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ont vu la perspective de leur retraite s'éloigner avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Ceux qui pensaient partir à 62 ans et doivent finalement attendre y voient une bonne solution pour lever le pied.
Allez, 7h08, c'est l'heure des marchés. Nicolas Pagnaise, on commence par le secteur des semi-conducteurs qui signe sa plus forte baisse depuis plus d'un an.
Oui, le secteur des semi-conducteurs fait face à plusieurs arbitrages. Depuis trois semaines, il a vu ses performances reculer de 10% la semaine dernière sur la base de prise de bénéfices. On a notamment vu l'indice SOX de référence dans le secteur donc qui reculait de 10%, tout comme l'indice Philadelphia Semiconductor qui, lui, regroupe les grandes entreprises américaines de puces qui reculent à peu près des mêmes niveaux. Un recul qui s'explique notamment par la sortie du marché d'un certain nombre de gérants et de hedge funds après avoir tenu pendant de nombreuses semaines des stratégies dites de momentum, à savoir miser sur la poursuite de la hausse des actions enregistrant les meilleures performances. Un retour de marché qui se traduit notamment par un recul de Micron de 30% sur un mois, ou encore de SanDisk qui perd 40% sur un mois, alors que les deux valeurs comptaient parmi les plus fortes performances du secteur. La tendance est plus modérée sur des acteurs comme TSMC ou ASML qui ont publié la semaine dernière, justement, d'impressionnants résultats, mais qui ne suffisent pas à convaincre les marchés d'un fort potentiel de hausse à venir. Il faut dire que le marché regarde aussi beaucoup ce qui se passe en Chine en ce moment, où des acteurs comme Moonshot ou DeepSeek montrent leur capacité à concurrencer directement les géants américains à moindre coût. On a vu les indices américains clôturer dans le rouge vendredi, tandis qu'en Asie, à l'heure actuelle, le Nikkei, à forte coloration technologique, perd 4%, tandis que le Shanghai Composite, lui, gagne 1%, le Hang Seng gagne, lui, 2%.
On parle aussi d'AB Volvo qui publiait ses résultats vendredi, Nicolas.
AB Volvo, l'ancienne maison mère de Volvo Car, qui était le spécialisé dans les camions, publie des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires progresse de 3% à 126 milliards de couronnes suédoises pour un bénéfice opérationnel ajusté de près de 15 milliards de couronnes. AB Volvo qui fait état d'une forte progression de ses commandes, plus 33% sur un an à 63 000 véhicules. Un rebond porté essentiellement par l'Amérique du Nord, où la hausse des commandes atteint 122%. Une demande qui reste également solide en Europe. AB Volvo qui maintient ses prévisions de résultats annuels pour 2026.
Merci Nicolas Pagnaise, on vous retrouve dans une demi-heure. Le débat face à le Chypre.
Good morning business, face à le Chypre.
Et face à le Chypre ce matin, il y a Raphaël Legendre. Messieurs, vous nous emmenez au Royaume-Uni. Andy Burnham a fort affaire arrivée aujourd'hui officiellement au 10 Downing Street. Sa feuille de route est très chargée. Est-ce qu'elle est tenable? Qui commence?
Je vais commencer parce que franchement, ça va être très compliqué pour le nouveau Premier ministre. On va pas se mentir. Le Premier ministre qui arrive dans un pays où la croissance est absolument atone. En fait, la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est un peu, ça ressemble beaucoup à la France. Et donc, vous avez un Premier ministre, Labour, très marqué à gauche, l'ancien maire de Manchester, qui débarque en expliquant qu'il va faire un big bang de la décentralisation et il promet du pouvoir d'achat dans tous les codes postaux du royaume. Sauf que ce pouvoir d'achat, il ne se décrète pas. Le problème du Royaume-Uni, c'est pas qu'il manque d'État, c'est qu'il manque de croissance. La Grande-Bretagne, c'est 15 ans de faible productivité, un investissement privé largement insuffisant. Évidemment, le Brexit qui a énormément pénalisé les échanges commerciaux. Et puis, je vous le disais, ça ressemble beaucoup à la France. C'est quand même 100% de dette, des marges de manœuvre budgétaires proches de zéro. Ils sont à 4-5% de déficit aussi. Donc, vous avez des finances publiques très contrainte. Or, Burnham, lui, promet davantage de contrôle public sur l'eau, sur les transports, sur le logement, sur l'énergie. Sauf qu'il n'a pas les moyens, tout simplement, même s'ils ont nationalisé British Steel ce week-end. On ne redistribue pas une croissance qu'on n'a pas. Donc c'est ça le premier des leviers à activer. Comment il compte faire? Alors lui, il se dit clairement pas libéral, même s'il se dit pro-business. On n'a aucune idée de qui va composer son gouvernement, de qui sera ministre des Finances, notamment chancelier de l'échiquier. Ça va être un poste absolument stratégique. Bref, beaucoup d'interrogations. Voilà.
Est-ce qu'il y a de l'espoir, Emmanuel Le Chypre ?
Bah, y a deux façons de voir les choses. Soit on les voit comme Raphaël, en se disant, on raisonne dans le cadre classique des marges de manœuvre budgétaires, et effectivement, on se dit, bah, c'est très mal parti pour une politique de gauche quand vous avez des déficits publics aussi élevés. Ou alors on se dit, bah, justement, ces contraintes, c'est une opportunité de voir les choses différemment, du genre, on n'a pas d'argent, mais pourquoi ne pas avoir des idées ? Et là, on a quand même affaire à un candidat qui a un profil plutôt intéressant. D'abord parce que alors son pari, c'est effectivement, hein, au cœur de son modèle, il y a cette idée de décentralisation économique, mais qui est quand même, moi je trouve, extrêmement prometteuse. Il faut bien rappeler une vérité qui nous échappe souvent depuis la France, parce qu'on regarde toujours les chiffres moyens pour le Royaume-Uni, c'est qu'en fait, on a un pays dont on se dit, oui, niveau de vie à peu près comparable avec la France, mais pas du tout. En fait, la réalité, c'est que vous avez deux Royaumes-Unis. Vous avez un grand Londres qui vit extrêmement bien, qui a un des niveaux de vie les plus élevés de très loin d'Europe, et le reste du Royaume-Uni qui vit extrêmement mal et qui a un niveau de pauvreté et de rémunération qui est beaucoup plus faible. Donc avoir là, maintenant, à Downing Street, quelqu'un qui a une expérience d'élu local extrêmement réussie, parce que c'est quand même ça, à la différence d'un Keir Starmer qui était juriste, etc. Là, Andy Burnham, il est effectivement l'incarnation de ces élus locaux. Il a réussi à Manchester quand même à faire des choses incroyables, comme avait réussi un peu Jean-Louis Borloo à Valenciennes. C'est quelqu'un qui a repris en main le réseau de bus, il a fait une politique de rénovation urbaine, il a lutté efficacement contre les sans-abri, il a monté une grande coopération entre les universités, les entreprises, etc. Le Grand Manchester, c'est devenu une des grandes métropoles les plus dynamiques aujourd'hui. Donc il a un bilan, il sait faire. Donc ça, c'est quand même un aspect extrêmement positif. Il montre quand même, moi je suis désolé, que la décentralisation, ça peut créer de la croissance et que, effectivement, ne pas avoir de manœuvre de marge sur les finances publiques, ça ne condamne pas forcément à l'absence de réforme. Donc moi je pense que c'est au contraire un laboratoire. Moi je suis profondément convaincu, à titre personnel, puisque Raphaël parlait de l'exemple de la France, que l'avenir appartient, le pouvoir
au maire,
aux élus locaux.
Les
politiques qui redresseront la France seront des élus locaux. Et ben effectivement, là où je suis d'accord sur un point avec Raphaël, c'est que le Royaume-Uni est un très bon laboratoire pour la France.
Merci beaucoup, messieurs. Ça, on en reparlera du pouvoir des élus locaux. Merci, messieurs.
Oui,
tout de suite.
Le pouvoir taxer. Vous allez voir.
Le plus.
Good morning business. Le plus.
Et sachez que dans notre pays, un poulet sur deux consommé est importé. C'est le constat de la filière volaille française qui se mobilise pour construire de nouveaux poulaillers face à une concurrence étrangère féroce. La filière s'organise pour attirer de nouveaux éleveurs. On voit ça avec Astrée Olivier en Bretagne.
Dans le Morbihan, un élevage de 40 000 poulets répartis sur 6 immenses poulaillers fermés. Jérémy Choquet a choisi d'élever une espèce de volaille particulière, des poulets à croissance rapide. Ils sont petits, blancs, n'ont pas beaucoup de plumes, mais une chair dense au niveau des cuisses.
C'est une souche tout simplement qui a été sélectionnée pour faire en sorte d'avoir le plus de blanc afin de répondre à une qualité de découpe pour avoir le plus de blanc. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est ce que recherchent les gens pour les soies dans les sandwichs ou dans les salades.
C'est l'espèce utilisée par les fast-food comme McDonald's, la plus demandée en France, notamment par les industriels de l'agroalimentaire. Même si la demande de poulet est en hausse, son prix de vente à moins de 4 euros est encore trop faible et les installations sont difficiles à rentabiliser.
Le but d'une activité est que ça rémunère. Effectivement, ouais, aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'on est installé. Donc on a un gros poste qui est le coût de construction. Des bâtiments et l'amortissement des bâtiments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne gagne pas à proportion de notre investissement.
À quelques kilomètres, Nicolas Giboire a fait le choix d'un élevage plus petit, 17 000 poulets label rouge avec un cahier des charges beaucoup plus strict.
Vous êtes actuellement dans le parcours du poulailler. Vous avez derrière vous des poulets de Janzé, label rouge, qui gambadent actuellement dans le pré.
Mais pour rester rentable, il est obligé de miser sur la polyculture.
Alors le fait d'être polyculteur me permet de lisser mon revenu et d'être moins dépendant des cours ou éventuellement des crises que peut traverser une ou différentes productions.
Autre modèle de production, l'élevage de dindes et dindons. Ludovic Perrin mise lui aussi sur une production variée avec notamment des cultures céréalières et l'élevage de porc.
Sur notre site, on est multi-élevage. Et on a choisi la dinde parce que les cycles sont plus longs. C'est-à-dire qu'en fait, le gros du travail sur la dinde, c'est quand les bâtiments sont vides. Donc c'est les vides sanitaires, les enlèvements de volailles, etc. Là, c'est vraiment le gros du travail. Donc avec la dinde, ça nous permet d'avoir vraiment un surplus de travail à peu près tous les 4 mois. Donc ça nous permet de mieux gérer le reste des élevages, donc le porc entre autres, et puis les cultures aussi sur l'exploitation.
Pour l'éleveur, pas question de s'agrandir pour le moment. Sa production est tout juste à l'équilibre. Difficile pour lui de se projeter vers l'avenir.
C'est le réchauffement climatique. Là, on a eu des 42, 43 degrés. On sait que dans 10 ans, ça va être pire. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire des bâtiments qui vont tenir à 45, 46 ? C'est aussi la question qu'on se pose. J'ai pas la solution. Il y a forcément des techniques, mais est-ce qu'elles seront rentables ? J'en suis moins sûr.
La loi d'urgence agricole débattue par les parlementaires devrait lever certains blocages pour aider à l'installation de nouveaux poulaillers et éleveurs. Selon la filière, il faudrait investir 3 milliards d'euros d'ici à 2035 pour réduire d'un tiers les volumes de volailles importées.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Ce matin avec Annalisa Capellini, nous partons en Inde où le mouvement des cafards prend de l'ampleur avec une grande manifestation qui se dirige en ce moment vers le Parlement indien. Annalisa, est-ce que ces cafards, ces jeunes, peuvent faire tomber Narendra Modi ?
C'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils demandent en tout cas avec cette manifestation qui va aller jusqu'au Parlement à New Delhi. Alors en réalité, ce n'est pas vraiment près d'arriver. Narendra Modi a une majorité parlementaire très solide. Donc ce mouvement des cafards n'est pas une menace politique directe, mais ce qui va arriver ces prochaines heures, et il va falloir le risque d'avoir un coup politique pour lui et pour son gouvernement. Et surtout, ce mouvement touche un point très sensible pour le futur du pays, et c'est celui de la jeunesse. Oui, parce que ce mouvement contestataire est celui d'une jeunesse qui est considérée comme des cafards par une partie de la société indienne. C'est comme ça qu'ils ont été appelés par le président de la Cour suprême, qui sous-entendait qu'il y a une partie de la jeunesse qui est inutile, sale, qui vit dans les interstices de la société. Et donc, c'est ce nom que cette partie de la jeunesse a choisi après de s'approprier pour rappeler au pouvoir qu'elle est là et que comme des cafards, ça va être difficile de s'en débarrasser.
Sympathique, hein, d'habitude, il faut quand même se méfier des mouvements étudiants. Qu'est-ce qu'ils dénoncent en particulier, ces jeunes ?
Pour eux, le problème, c'est l'accès à l'éducation supérieure et notamment les concours pour l'entrée à l'université, sur la transparence desquels pèsent des forts soupçons ces dernières semaines. Il faut dire qu'en Inde, pour des millions de jeunes, ces concours sont le principal moyen d'accéder à la classe moyenne, d'accéder à la fonction publique ou aux professions les plus prestigieuses. Et donc, ces concours-là sont tout simplement un moyen d'ascension sociale dans un pays qui en promet beaucoup. Donc vous voyez, si les sujets fuitent, s'il y a des doutes sur la transparence, si les concours sont annulés, eh bien c'est l'idée même de méritocratie qui est derrière, qui s'effondre. Donc est-ce que l'État, et est-ce que Narendra Modi donc, est capable de garantir des règles du jeu équitables pour tout le monde ? Voilà un peu la question de fond. Et en plus, cette colère-là se superpose à un autre problème, c'est le problème du chômage des jeunes et surtout du chômage des diplômés. C'est assez contradictoire, mais en Inde, les deux tiers des chômeurs étaient diplômés en 2023. Il y a 20 ans, c'était seulement un tiers des chômeurs qui étaient diplômés. Il faut dire que ces dernières années, 5 millions de diplômés sont formés chaque année en Inde, mais moins de 3 millions sont ensuite employés. Vous voyez qu'il y a à peu près 2 millions de jeunes qu'on perd sur la route chaque année. Donc il y a un décalage entre le nombre de diplômés formés et ceux qui travaillent après, avec la promesse d'un emploi et donc la réalité d'un marché qui n'est pas prêt à les accueillir.
Il y a eu des contestations similaires d'autres pays d'Asie cette année, Annalisa, très vite.
Oui, beaucoup de mouvements de protestation de la Gen Z qui se sent trahis par un système qui ne fonctionne pas comme il devrait. On les a vus au Bangladesh, au Sri Lanka, au Népal, donc dans tous ces pays, le soulèvement de la Gen Z a contribué à faire tomber le gouvernement. On l'a dit, en Inde, ça ne sera probablement pas le cas, mais pour le gouvernement, c'est essentiel de maîtriser ce soulèvement. C'est une question d'image, une question de crédibilité.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini.
Good morning business. Le journal.
7h31, les titres, Léo.
Andy Burnham s'installe au 10 Downing Street avec les dossiers économiques en haut de sa pile. On sera en direct de Londres dès le début de ce journal. La quasi-paralysie du détroit d'Ormuz fait renaître les craintes en Europe sur l'approvisionnement en kérosène et puis la Cour des comptes alerte. Les pépites françaises du Cantique sont en train de devenir des proies. C'est donc le grand jour pour Andy Burnham, le nouveau chef des travaillistes qui va prendre ses fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni ce midi. Il succède à Keir Starmer pour devenir le sixième chef du gouvernement en 10 ans. Et il hérite là d'un certain nombre de dossiers économiques à gérer. Alors on vous rejoint en direct, Baptiste Muckensturm pour BFM Business à Londres, où Andy Burnham compte engager déjà quelques grands projets de dépenses.
Absolument, Léo. Il veut rompre avec des décennies de néolibéralisme, comme on dit dans son entourage, avec un plan d'investissement stratégique sur 10 ans, priorité au logement avec le plus grand programme de construction de logements municipaux depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Et puis, il veut aussi réformer les transports publics avec un ticket maximum à 2 livres. Et puis, il veut s'attaquer, bien sûr, à la crise de la dépendance, comme dans beaucoup de pays, en créant un service national de soins, peut-être même gratuit pour certains. Côté modernisation de l'État, eh bien, il prépare la création d'un ministère de l'intelligence artificielle et il veut intégrer la science aux affaires économiques. Il veut aussi accélérer la décentralisation en ouvrant une sorte de Downing Street du Nord à Manchester pour faire circuler le pouvoir dans les territoires. Et puis, pour le pouvoir d'achat, eh bien, Burnham envisage de dépenser 3,2 milliards de livres chaque année pour faire baisser les factures d'énergie des ménages, bien sûr. Et pour cela, bien sûr, et il cherche à mettre sous tutelle publique le géant de l'eau britannique Thames Water, qui est en faillite.
La question, c'est comment financer tout cela maintenant ?
Alors, bien sûr, c'est tout l'enjeu. Son équipe est consciente des craintes du marché obligataire ici à la City de Londres. Elle cherche des marges de manœuvre. Et première économie nette qui a été annoncée ces derniers temps, c'est l'abandon du très coûteux projet de carte d'identité numérique qui avait été initié par Keir Starmer et dont les crédits vont être réorientés vers le coût de la vie. Burnham envisage aussi une refonte fiscale avec la création d'une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. On parle de plus de 50%, même si on ne sait pas exactement quel sera le seuil. Il envisage une hausse de la taxe sur les plus-values et une surtaxe d'habitation sur les résidences de luxe londoniennes. Pour les financer et pour financer la question du soin, il évoque une redevance de soins progressive ou même un prélèvement sur les successions. On parle de 10% pour les plus grosses successions. Tout cela, bien sûr, en essayant de respecter son engagement de ne pas toucher à la TVA ni aux cotisations sociales.
Merci Baptiste Muckensturm à Londres. Dans l'actualité également, cette 9e nuit consécutive de frappes américaines sur l'Iran, Léo.
Des centres de commandement militaire, des sites de défense aérienne, mais aussi des réseaux de communication ont été visés quand Téhéran, de son côté, poursuit ses ripostes sur ses voisins du Golfe et frappe encore des bateaux dans le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, appelle cette nuit la communauté internationale à s'engager aux côtés des États-Unis.
Il est clair que l'Iran, du moins certains responsables en Iran, veulent contrôler le détroit et l'utiliser comme levier contre le reste du monde. Les États-Unis feront et continueront de faire ce qu'ils doivent faire pour protéger le transport maritime mondial. Mais les autres pays doivent commencer à intensifier leurs efforts et fournir une aide pour partager ce fardeau, qu'il s'agisse de moyens matériels ou financiers.
Voilà la déclaration de Marco Rubio dans la nuit, au moment où le trafic est quasiment paralysé dans le détroit d'Ormuz et quand le pétrole redécolle, Nathan Cocampo.
Oui Léo, le Brent dépasse à nouveau les 90 dollars, au plus haut depuis le mois de juin et la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Le WTI a dépassé les 85 dollars avant de redescendre un petit peu. Alors qu'aucun transporteur de GNL n'a été visible traversant le détroit depuis jeudi, 4 navires seulement ont réussi à effectuer la traversée du détroit hier, contre 8 la veille selon les données maritimes. Et une installation pétrolière clé au Koweït a été touchée ce week-end. Les gardiens de la Révolution affirment avoir arrêté par la force 2 nouveaux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit cette nuit et préviennent aucune goutte de pétrole ni de gaz ne traversera le détroit tant que les actions américaines dans la région se poursuivront. Alors qu'un 1/5 du pétrole transporté par voie maritime transite par Hormuz, une note récente de Capital Economics interpelle. Si la fermeture du détroit se poursuit, le Brent pourrait grimper à 120 voire 150 dollars le baril dans les prochaines semaines.
Tension sur le pétrole donc, Nathan. Ce qu'on regarde nous en Europe, ce sont les réserves de kérosène qui sont au plus bas.
Moins d'un mois de stock, c'est ce qui reste aux compagnies aériennes selon plusieurs experts. Un niveau tendu dans cette période estivale de départ en vacances. En temps normal, la moitié du kérosène consommé provient des pays du Golfe. Avec le blocage du Détroit, pas le choix. Les compagnies devront très certainement revoir leur programme de vol dans les prochaines semaines pour limiter leur consommation de carburant. Selon les dernières prévisions, si les perturbations se poursuivent, l'Europe pourrait connaître un déficit d'approvisionnement de 600 000 barils par jour au troisième trimestre. On en est encore loin, mais Bruxelles travaille tout de même sur différents scénarios de crise et pourrait, le cas échéant, proposer une coordination volontaire pour redistribuer le kérosène à travers l'ensemble du territoire et ainsi éviter des pénuries dans certains aéroports.
Merci Nathan Cocampo. Alors pour le secteur aéronautique, c'est le coup d'envoi ce matin du salon de Farnborough au Royaume-Uni. Le contexte géopolitique pourrait donc peser sur le volume de commandes pour Airbus et Boeing. L'événement se tient en tout cas dans un contexte plus favorable pour le champion local Rolls-Royce, le motoriste britannique, ex-maillon faible du secteur en Europe, qui affiche désormais des résultats records, Clara Bido.
Rolls-Royce arrive à Farnborough en pleine renaissance. Le motoriste britannique, presque à terre pendant le Covid, a dégagé l'an dernier plus de 4 milliards d'euros de bénéfices opérationnels et vise encore davantage cette année. Depuis son point bas de 2022, Rolls-Royce a vu sa valorisation boursière multipliée par près de 18 pour atteindre aujourd'hui près de 140 milliards d'euros. Son principal moteur, ce sont les gros porteurs d'Airbus et de Boeing. Et c'est simple, plus ils volent, plus Rolls-Royce encaisse, car le groupe facture surtout leur entretien pendant toute leur durée de vie. Les heures de vol de ces moteurs dépassent désormais leur niveau d'avant-crise, tandis que les commandes d'A350 remplissent les carnets. Le groupe profite aussi du réarmement avec les moteurs d'avions de combat, de sous-marins ou de blindés, et du boom des data centers qui achètent ces groupes électrogènes. Mais ce succès crée un nouveau problème. Rolls-Royce manque encore de pièces et de capacités de maintenance. Après son redressement financier, son véritable défi est désormais de tenir une cadence industrielle devenue effrénée.
Et puis les pépites françaises du quantique sont-elles en position de faiblesse, Léo ?
La France a réussi à faire émerger plusieurs acteurs crédibles. Mais selon la Cour des comptes, qui vient de sortir un rapport sur le soutien de l'État à l'informatique quantique, le risque maintenant, c'est de les voir passer sous pavillon étranger, Jean-Baptiste Huette.
Le secteur entre dans sa phase la plus coûteuse. Il faut désormais transformer les prototypes en machines industrielles alors que le marché n'existe pratiquement pas encore. L'exemple britannique est un avertissement. Oxford Ionics, remarqué pour ses avancées technologiques, a été racheté quelques mois plus tard par une entreprise américaine. En France, Pascal par exemple, société en pointe, plus de 300 salariés, valorisation qui pourrait approcher les 2 milliards de dollars, mais sa levée de fonds de 100 millions d'euros en 2023 reste, selon la Cour des comptes, 10 fois inférieure à celle de certains concurrents étrangers. Même les 340 millions d'euros annoncés pour préparer son entrée au Nasdaq doivent être financés pour moitié par des investisseurs étrangers. Autre exemple, l'entrée il y a quelques semaines de Nvidia au capital d'Alice et Bob. La France ne compte qu'un seul fonds d'investissement spécialisé dans le quantique. À titre de comparaison, une entreprise américaine a levé 1 milliard de dollars en une seule opération en 2025. Résultat, malgré le 1,5 milliard d'euros de fonds publics prévus par la France depuis 2021, les startups restent sous-capitalisées. La Cour des comptes parle désormais d'une véritable guerre d'attrition. L'État a financé leur naissance, mais sans capitaux privés supplémentaires. D'autres pays pourraient financer leur croissance et récupérer la technologie.
7h39, les marchés. Et Donald Trump qui pourrait faire payer l'accès à ses déclarations, Nicolas Pagnaise.
Oui, c'est en tout cas une question qui anime le Wall Street depuis jeudi. Les traders vont-ils devoir payer pour avoir accès en avant-première aux déclarations de Donald Trump? Si la question se pose, c'est parce que Truth Social, le réseau social fondé par Donald Trump lui-même et dont il détient plus de 50% du capital, envisage de lancer un service payant à destination des investisseurs et des institutions financières pour avoir accès en temps réel aux publications de plusieurs comptes très suivis et influents sur la plateforme. Si le nom de l'actuel président des États-Unis n'a pas été explicitement cité, il est difficile de croire qu'il ne sera pas intégré dans cette offre payante alors qu'il en est l'utilisateur le plus connu et que les marchés sont déjà suspendus à son compte. Par exemple, c'était sur Truth Social que Donald Trump avait déclaré que c'était le bon moment pour acheter en bourse quelques heures avant de suspendre les droits de douane pour 90 jours. Si les traders ont tout intérêt à avoir accès à ces informations prioritaires quelques minutes ou quelques secondes avant le reste du marché, l'annonce n'a pas manqué de faire réagir l'opposition face à un président américain qui monétiserait directement ses prises de décision à la tête des États-Unis. C'est une question qui est toujours en suspens. On regarde sinon pour le reste de l'actualité sur les marchés, le Brent qui est toujours aux alentours des 90 dollars, le WTI toujours aux alentours des 84 dollars. Et si on regarde du côté des marchés asiatiques, on voit que le Nikkei ou le Kospi sont orientés en recul. Le Nikkei perd 4%, le Kospi plus de 3%, tous les deux à forte coloration technologique, tandis que le Shanghai Composite ou le Hang Seng sont dans le vert.
Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve dans le journal de 8h, l'édito politique.
Good Morning Business, L'édito de Legendre.
Raphaël, le Conseil de Paris a voté samedi le doublement de la taxe sur les logements vacants en 2027. Objectif, désengorger le marché locatif en récupérant 20 000 logements. Vous dites qu'on n'y arrivera pas comme ça.
Non, c'est sûr que c'est pas en taxant la pénurie qu'on arrivera à quoi que ce soit. Bon, d'abord, le constat réel, c'est que Paris compte 150 000 logements vacants. C'est énorme, c'est un véritable problème dans une ville où tant de monde a du mal à se loger. Et c'est un problème auquel, la mairie socialiste apporte une mauvaise solution. La réponse d'Emmanuel Grégoire tient en quatre lettres. T-A-X-E, la taxe, taxe. Il n'y a que ça qui compte. Le Conseil de Paris a voté samedi le quasi-doublement de la taxe sur les logements vacants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 2027, cette taxe passera de 17 à 30% de la valeur locative du bien après un an de vacances et de 34 à 60% après deux années. Donc je vous donne un exemple très concret. Si vous avez un appartement moyen d'environ 30 mètres carrés dans le 17e arrondissement, c'est l'exemple de la mairie de Paris, la facture pourrait grimper de 800 euros avant la réforme à près de 2000 euros, puis 4000 euros par an. C'est colossal.
Est-ce que ça va remettre des appartements sur le marché au final?
Alors c'est l'argument évidemment de la mairie de Paris. La mairie de Paris qui estime que 80 000 logements sont durablement vacants à Paris. Elle promet d'en libérer 20 000, vous l'avez dit Sandra, très bien. Mais pourquoi la troisième augmentation de cette taxe fonctionnerait-elle mieux que les précédents? Cette taxe, elle existe depuis 1999. Elle a déjà été durcie et la Cour des comptes constate que les outils de lutte contre la vacance des appartements n'ont pas démontré leur efficacité. Pourquoi? Parce que la vacance, ça n'est pas une cause unique. Il y a des successions bloquées, les logements inhabitables, vous avez des travaux trop lourds, les contentieux. Bref, les propriétaires qui hésitent à louer parce qu'ils redoutent aussi les impayés et qu'ils auront toutes les difficultés du monde à récupérer leurs biens. Et puis la réalité, c'est qu'on a tellement taxé les biens immobiliers qu'ils ne sont plus rentables. Aujourd'hui, on est à 1, 2, 3% de rentabilité. On ne veut pas prendre de risques avec de potentiels locataires malveillants. Donc, on ne le loue plus. Voilà. Et c'est aussi le droit des propriétaires. Et on a tellement taxé que... Et la mairie de Paris, pardon, elle vient d'en remettre une louche alors qu'elle assure vouloir en percevoir le moins possible, bien sûr. Sauf qu'étonnamment, c'est quand même le taux maximal autorisé par la loi qu'elle choisit d'utiliser. Mettre en place.
Donc voilà, le temps est fini et c'est une opération budgétaire très clairement pour vous, Raphaël.
Évidemment, il faudrait construire plus et agrandir.
Merci beaucoup, Raphaël Legendre. Dans un instant, on va parler de la situation géopolitique, on va parler de la loi programmation militaire, de beaucoup de sujets avec Jean-Louis Thieriot, député LR de Seine-et-Marne et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, qui est avec moi dans le grand entretien. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, c'est Jean-Louis Thieriot qui est avec moi, député LR de Seine-et-Marne, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Merci beaucoup d'être dans la matinale de l'économie. Je vais vous demander déjà ce que vous pensez du fait que le conflit au Moyen-Orient reprend, que la trêve n'a pas duré du tout. Quelles conséquences sur notre économie très, très directement? Quel secteur ça met le plus à mal, le plus en danger chez nous?
Les conséquences sont évidemment très graves. Tous les secteurs qui dépendent de l'approvisionnement en hydrocarbures, que ce soit les transports, les compagnies aériennes, ça on l'a en tête. Évidemment, les particuliers qui en ont besoin pour aller travailler, et puis on l'oublie trop, les agriculteurs, où l'achat d'engrais, dont une partie dépend de la méthanisation, prend des hausses catastrophiques. Donc c'est l'ensemble de l'économie qui s'enrhume, et on n'en voit pas la fin.
L'économie civile, mais bien sûr aussi, ce qu'on regarde, c'est l'économie militaire. Le Sénat et l'Assemblée ont validé l'actualisation de la loi de programmation militaire. Elle prévoit que l'État consacre 436 milliards d'euros au budget des armées d'ici 2030. On est dans un contexte d'économie budgétaire. La défense est prioritaire malgré tout. Que va permettre concrètement ce budget ?
Ce budget va permettre davantage de cohérence dans les armées. En clair, nous avions des bateaux qui partaient sans avoir tous leurs missiles parce que tout simplement, on n'avait pas assez de stock de missiles. Donc, ce que cette loi va permettre, c'est d'avoir des munitions, une adaptation au nouveau contexte du champ de bataille, c'est-à-dire la dronisation, la robotisation, un taux d'entraînement meilleur. Mais ça n'est pas une loi de format. Et quand on voit les menaces qui augmentent partout, je pense au flanc est de l'Europe, il y a une vraie inquiétude aujourd'hui d'avoir, après les élections en Russie en 2027, une mobilisation générale ou une très large mobilisation de forces russes. Cela peut être dangereux pour l'Ukraine, voire dangereux en cas d'escalade horizontale pour d'autres pays européens. Donc évidemment, menace là. Menace, vous avez évoqué le Golfe. Ça veut dire que la liberté du commerce maritime, la liberté des mers devient une priorité. Là, notre format n'est évidemment pas suffisant avec 15 navires de surface. Donc 36 milliards, c'était nécessaire, c'était le minimum, mais on n'aura pas le choix d'y revenir en 2027 et j'espère bien que les candidats à la présidentielle feront de la défense un des axes majeurs de leur campagne.
Les Français, quand je dis les Français, c'est dans leur ensemble, c'est-à-dire les ménages, ce sont les entreprises aussi, sont-ils assez conscients de la menace et qui est à nos portes et des moyens qu'il faut y mettre? Est-ce que chacun devrait participer d'une façon ou d'une autre à cet effort-là, à concentrer des investissements là-dedans?
On est à l'heure des choix, et si on ne les fait pas, ça sera le temps des conséquences et de l'irréparable. Pays qui se sentent le plus menacés physiquement, c'est-à-dire ceux du flanc Est, je pense aux Polonais, je pense aux Baltes, eux en sont très conscients et sont à 4-4,5% de leur richesse nationale consacrée à la défense. Nous, péniblement, avec cette loi de programmation militaire, on serait à 2,5%. Je veux rappeler que pendant toute la guerre froide, et ça n'a pas empêché les 30 glorieuses, nous étions à 3,5. En clair, la marche est encore haute.
Et les entreprises doivent y mettre leur part.
Les entreprises, non seulement les entreprises, mais surtout le monde de la finance, les banquiers et l'investissement. Vous savez, la première des armées aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est l'entreprise, c'est la technologie. Pour que les entreprises y mettent leur part, et le président de la République l'a dit à Brienne, c'est améliorer leur capacité de production, prendre des risques à l'export, mais c'est aussi le monde de la finance et de l'investissement qui doit financer les entreprises de défense ou les entreprises du HAL, et nous avons beaucoup de chance, c'est que les technologies qui vont faire la différence demain dans la défense sont l'intelligence artificielle et sont le quantique, qui sont des industries duales par nature et qui sont les nouveaux game changers stratégiques.
Puisque vous me lancez sur le sujet, effectivement, on parlait tout à l'heure des pépites françaises qui sont presque menacées, celles du quantique, parce que voilà, elles sont menacées, on n'a pas assez d'investissements, on les a mises, on a permis leur naissance, mais aujourd'hui, il faut des fonds, elles sont au moment de leur développement, on a un gros risque de les perdre, notamment au profit des Américains. Qu'est-ce qu'on fait pour Pascal, pour toutes ces entreprises-là?
Le principal sujet en France, c'est d'être capable de financer le passage à l'échelle. On est assez bon sur les start-up ou les levées de première série. Ensuite, on n'a pas de fonds suffisamment importants et suffisamment patients. Alors, il y a une réponse institutionnelle un peu longue qui serait de faire un marché européen des capitaux. Et puis, il y a l'éléphant au milieu de la pièce dont il faut enfin s'emparer. La seule manière d'avoir une épargne patiente et stratégique, c'est d'avoir des fonds de capitalisation retraite. Donc, on n'échappera pas à avoir une épargne obligatoire par capitalisation d'un certain niveau. Ça ne pourra pas se faire d'un seul coup. Mais c'est une double réponse. Réponse au défi démographique, parce qu'aujourd'hui, les Français doivent être conscients qu'ils ne payent pas pour leur propre retraite, mais bien pour la retraite de ceux qui sont retraités aujourd'hui, vu qu'on fait de moins en moins d'enfants. La réalité, c'est que de tout, et qu'on travaille plutôt moins que nos voisins européens, la réalité, c'est qu'on va vers une falaise. Et puis, c'est surtout un combat pour l'industrie, pour l'investissement. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on entend certains partis comme LFI passer leur temps à cracher sur les super profits Total, qui aujourd'hui bénéficient des super profits de Total, ce sont les retraités américains avec les fonds de pension américains. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est que ce soit le retraité français, le salarié français qui profite des profits de nos entreprises. Et de toute façon, c'est un impératif stratégique. L'IA aujourd'hui, c'est l'affaire Spoutnik qu'on avait eue en 57 avec l'Union soviétique. Quand vous voyez Anthropic qui est condamné, qui reçoit l'ordre du gouvernement américain de ne pas communiquer ses modèles IA les plus récents, c'est bel et bien une dépendance technologique. Les fonds de pension, l'investissement, c'est éviter que demain, nous ne soyons une colonie technologique américaine ou chinoise.
Vous allez rendre demain au gouvernement votre rapport sur la sécurité économique. Alors, vous l'avez réalisé en collaboration avec Christophe Plassard et Charles Rodwell. Le but, c'était de s'inspirer de ce qui se fait bien chez nos partenaires en matière de politique et de sécurité économique. Comment vous avez procédé? Et dites-nous, parce qu'il nous reste peu de temps, quel point, finalement, vous avez constaté?
En quelques mots, je ne vais pas spoiler ce qui sera remis demain, mais on a comparé, effectivement, on a fait un benchmark de tout ce qui se faisait en Europe, en Chine et aux États-Unis. Oui. On constate qu'en Europe, on est parmi les pays les plus vigilants. On a quelques trous dans la raquette, mais franchement, ça fonctionne. En revanche, la sécurité économique, ça n'est pas que le contrôle des investissements étrangers, c'est la lutte contre l'espionnage industriel. Et puis, c'est aussi, et ça rejoint notre conversation précédente, avoir des financements. Pourquoi on a des entreprises qui se vendent à l'étranger? C'est tout simplement qu'on n'a pas les fonds d'investissement. Tout se tient et c'est vraiment la bataille de 2027. Avant de se demander à quel âge on part en retraite, la première question à se poser, ça va être comment on fait pour être en pointe dans les technologies de demain qui feront la différence entre les grandes puissances et les autres.
Il nous reste très peu de temps, mais on est en année présidentielle. Considérez-vous le risque d'ingérence étrangère comme inquiétant? Est-ce qu'on a des moyens aussi de l'éviter? On voit que l'IA, justement, prend beaucoup d'ampleur dans les élections. Il va y avoir des élections pas mal dans le monde dans les prochains mois. Qu'en pensez-vous, vous?
Le risque d'ingérence existe, ça n'est pas que des risques, c'est avéré. Vous voyez, dès que vous arrivez sur des sujets tenant à la Russie, par exemple, moi je suis frappé sur Twitter, vous avez une quantité d'intervenants qui sont visiblement des chatbots qui s'enflamment. Donc oui, l'ingérence est là. On a, je crois, en France, un système assez robuste, à la fois avec Viginum et avec France Response, qui est plus agressif, en tout cas, qui défend la position française. On doit trouver l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des intérêts français. Moi, je fais simplement une énorme différence entre la désinformation intérieure ou les fake news intérieures qui participent de la liberté d'expression et puis ce qui vient de l'étranger qui doit être détecté, pisté et dénoncé. Le gouvernement français vient de prendre une position publique en citant quelques ingérences russes. On doit continuer dans ce sens. Tout ce qui vient de l'étranger doit être traqué.
Merci beaucoup Jean-Louis Thiériot d'être venu ce matin. Député LR de Seine-et-Marne et membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, merci d'être venu dans la matinale de l'économie. Dans un instant de journal de 8h, on va revenir sur la situation au Moyen-Orient. Ça ne s'arrange pas entre les États-Unis et l'Iran. On verra aussi les conséquences sur le pétrole dans le détail avec Annalisa Capellini et Nicolas Pagnès. À tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gantois.
Il est 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie si vous nous rejoignez. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La tension n'a pas cessé du week-end entre les États-Unis et l'Iran. Marco Rubio a exhorté cette nuit la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des États-Unis pour, je cite, protéger le transport maritime mondial dans le détroit d'Ormuz. On va faire un point précis sur la situation avec Annalisa Capellini, un point sur le pétrole également avec Nicolas Pagnès. Et puis Andy Burnham prend les clés du 10 Downing Street aujourd'hui. Réparer les services publics, stimuler la croissance, incarner le changement, rien que ça, sur sa feuille de route. On fera le point à 8h30 avec notre correspondant. Les autres titres, Léo, ce matin.
Des tensions également en mer Noire, où un navire commercial a été frappé par plusieurs missiles russes. Les banques se prononcent aujourd'hui sur la restructuration de casinos et puis députés et sénateurs plancheux sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Dans la prochaine heure, il est le fondateur d'une de nos pépites, BlaBlaCar. Frédéric Mazel vient de lancer son club clone IA. Il s'appelle Fred 24, destiné à aider les chefs d'entreprise. Il viendra nous en parler dans la French Tech. Ce sera à 8h15. Et puis après 3 canicules en 2 mois, l'agroalimentaire est en alerte. La loi d'urgence agricole répond-elle aux inquiétudes, par exemple, des industriels du lait? Réserve d'eau, pesticides? On posera la question à François-Xavier Huard, PDG de la FNIL, qui sera avec moi à 8h20. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Pas de répit donc au Moyen-Orient, Léo.
C'est le même schéma qui se répète ce matin pour la neuvième fois consécutivement. Les États-Unis frappent l'Iran, l'Iran frappe ses voisins du Golfe et des navires dans le détroit d'Ormuz. Et il n'y a aucune perspective de sortie de crise, Annalisa Capellini.
En effet, les frappes de cette nuit, elles ont ciblé particulièrement les infrastructures. Selon l'armée américaine, les raids de la nuit ont visé des centres de commandement militaire, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, mais aussi des sites de lancement de missiles et de drones et surtout les réseaux de communication. Il y a un but très clair dans ces opérations de l'armée américaine, c'est réduire la capacité de l'Iran à attaquer les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz. Vous l'avez dit, Léo, donc, à chaque attaque américaine correspond derrière une riposte iranienne. Les Iraniens qui ont touché des cibles militaires américaines dans la région, au Koweït notamment, où l'armée dit faire face ce matin à des attaques de drones, et à Bahreïn, où les sirènes d'alerte ont retenti ce matin, il y a quelques minutes encore.
Il y a un pays qui devient par ailleurs de plus en plus la cible des Iraniens. Annalisa, c'est la Jordanie.
Absolument, c'est en Jordanie en effet qu'a eu lieu l'attaque iranienne de ce week-end. L'attaque qui a fait 2 morts et 1 disparu parmi les forces armées américaines. C'était la dernière d'une série d'attaques iraniennes, toutes dirigées contre les soldats américains en Jordanie. Pourquoi cibler autant ce pays? Eh bien, parce que c'est la pièce maîtresse de la stratégie américaine au Moyen-Orient. C'est la Jordanie qui abrite des bases stratégiques. C'est la Jordanie aussi qui abrite des troupes qui ont été relocalisées d'autres pays du Moyen-Orient. C'est de là aussi que les États-Unis peuvent mener des frappes aériennes particulièrement efficaces. Selon ce que des sources ont déclaré au New York Times, attaquer la Jordanie signifie donc attaquer toute la coalition régionale américaine et surtout essayer de faire en sorte que le coût politique de la présence américaine dans la région soit supérieur aux bénéfices militaires.
Merci Annalisa Capellini. Alors tout ça pèse sévèrement sur les cours du pétrole. Ce matin, Nicolas Pagnès, on est revenu sur des niveaux de début juin.
Oui, le pétrole est repassé cette nuit au-dessus des 90 $ le baril de Brent en réaction à cette 9e nuit consécutive de bombardements entre les États-Unis et l'Iran. Le baril de WTI a de son côté dépassé les 85 $ cette nuit pendant quelques heures avant de revenir aux alentours des 84 $. Des niveaux qui restent tout de même loin des sommets de mai dernier où le baril de Brent avait atteint les 110 $, mais qui montrent que même si le scénario central des marchés est que ni l'Iran ou les États-Unis n'ont intérêt à ce que le conflit dure, chaque nouvelle journée de tension apporte un peu plus de fébrilité sur les cours. Il faut dire que pour endiguer la hausse des cours du pétrole depuis le début du conflit, plusieurs pays ont débloqué d'importantes quantités de leurs réserves stratégiques, des stocks que les pays doivent à présent reconstituer, ce qui va continuer à porter le cours d'un côté, mais qui va surtout empêcher de contenir le prix du pétrole si jamais le détroit d'Ormuz reste fermé trop longtemps. Pour bien comprendre, les stocks pétroliers mondiaux ont diminué de 360 millions de barils entre mars et mai dernier pour ne rebondir que de 21 millions en juin. Aux États-Unis, par exemple, les réserves stratégiques de pétrole ont atteint leur plus bas depuis 1984.
Merci Nicolas Pagnès. Dans le même temps, ça chauffe également en mer Noire où un navire marchand turc sous pavillon de la Guinée-Bissau a été frappé par 3 missiles de croisière russes hier, selon la marine ukrainienne qui affirme que 5 marins ont été tués et qui dénonce une attaque délibérée contre un bateau civil sans menace militaire. Plus tard cette nuit, 400 drones ukrainiens ont aussi été lancés vers Moscou, selon le maire de la ville, qui lui affirme que 6 personnes ont été blessées.
Et l'actualité des entreprises, Léo, et cette étape importante dans la restructuration de Casino.
Les banques françaises doivent voter aujourd'hui sur le plan de sauvetage du propriétaire, Daniel Kretinsky. Alors, il s'agira surtout de se prononcer sur une mesure, celle qui prévoit d'exclure les autres créanciers qui veulent prendre le contrôle de Casino, Mathieu Pechberti.
Après 6 mois de négociations vaines, Casino lance une offensive contre une partie de ses créanciers. Le groupe de distribution a demandé à 6 banques françaises de revoir leurs garanties pour contourner l'avis d'autres prêteurs. Elles doivent aujourd'hui renoncer à une clause qui impose un accord de 2/3 des fonds d'investissement qui ont prêté il y a 2 ans 1,4 milliard d'euros à Casino. Ces 9 créanciers refusent le plan de sauvetage de Daniel Kretinsky qui leur octroie seulement 1/4 du capital du distributeur contre l'effacement de 40% de ce prêt. Il menace menace de saisir la justice pour contrer ce passage en force et propose de renoncer à la totalité de leurs prêts pour prendre 100% de Casino et éjecter le milliardaire tchèque. Leur opération serait soutenue par la banque Barclays qui a déjà aidé des fonds d'investissement à reprendre Atos il y a 2 ans. Cette guerre sans fin embarrasse les administrateurs judiciaires de Casino qui comptent désormais sur le tribunal de commerce pour forcer Daniel Kretinsky à faire des concessions et obtenir l'accord des créanciers.
8h06, et c'est jour de commission mixte paritaire sur le projet de loi qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors après l'adoption à l'Assemblée et au Sénat de 2 textes très différents et entre-temps les quelques réserves émises par Bruxelles, députés et sénateurs doivent donc s'accorder sur un texte commun avec l'espoir d'une application dès le 1er septembre, Erwan Maurice.
En aucun cas, l'avis de Bruxelles signifie que la France ne peut pas agir pour légiférer. Voilà ce que nous dit le cabinet de la ministre du Numérique, confiant sur l'adoption du texte, même si des points doivent être retravaillés aujourd'hui en commission mixte paritaire. Car Bruxelles note des incompatibilités avec la législation européenne. L'une, visiblement, concerne le principe introduit par le Sénat de liste noire de réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. La Chambre haute conteste l'idée d'une incompatibilité européenne et se défend. Une interdiction générale et absolue des réseaux sociaux ferait courir le risque que la loi soit inconstitutionnelle et donc inapplicable, dit le Sénat. La commission mixte paritaire devra trancher sur ce point. Le texte parlementaire prévoit aussi de confier à l'ARCOM la mission de veiller au respect du dispositif d'interdiction et de signaler les éventuels manquements. Bruxelles répond que le gendarme de l'audiovisuel et du numérique doit rester dans son rôle et n'a donc pas à établir de critères pour décider des plateformes qui pourraient ou non être accessibles aux moins de 15 ans. Là encore, un point que les parlementaires devront donc retravailler.
8h07, les marchés. Ça donne quoi cette tendance, Nicolas, à 50 minutes de l'ouverture?
On attend des marchés européens pour l'instant orientés dans le rouge, hein, en tout cas ce qui concerne le DAX. Le CAC 40 est, lui, selon les contrats futurs, orienté en très léger recul, proche de l'équilibre. Les marchés qui devront composer aujourd'hui, mais cette semaine, avec cette hausse des coûts du pétrole, hein, avec le baril de Brent aux alentours des 90$, le WTI aux alentours des 84$. Est-ce que cela viendra compliquer la décision de politique monétaire de la BCE attendue cette semaine également? C'est une des questions auxquelles le marché tentera de répondre lors de la séance aujourd'hui. Et puis, une autre question qui anime les marchés à l'heure actuelle, c'est le secteur des semi-conducteurs. Qu'adviendra-t-il de ce secteur alors qu'il a signé la semaine dernière sa pire semaine depuis plus d'un an? Ce secteur qui fait face à plusieurs arbitrages. On a notamment vu l'indice SOX de référence reculer de 10% la semaine dernière. L'indice Philadelphia semi-conducteur qui regroupe les grandes entreprises de puces aux États-Unis reculer lui aussi de 10%. Un recul qui s'explique notamment par la sortie du marché d'un certain nombre de gérants et de hedge funds après avoir tenu pendant de nombreuses semaines des stratégies dites de momentum, à savoir miser sur la poursuite de la hausse des actions enregistrant les meilleures performances. Un retournement du marché qui se traduit notamment par le recul de Micron de 30% sur un mois, de SanDisk qui perd 40% sur un mois, alors que les deux valeurs comptaient parmi les plus performantes du secteur. Et justement, alors que la saison des résultats s'est ouverte la semaine dernière, on a vu des valeurs comme TSMC ou ASML qui ont publié d'impressionnants résultats, de belles perspectives, mais cela n'a pas suffi à convaincre les investisseurs d'un fort potentiel de hausse. Il faut dire que le marché regarde aussi beaucoup ce qui se passe en Chine, où on a des acteurs comme DeepSeek ou Moonshot qui montrent leur capacité à concurrencer les géants américains à moindre coût.
Merci beaucoup Nicolas Pagnès. Culturia, tout de suite.
Good morning business. Culturia.
Avec Léa Benaïm cette semaine. Bonjour Léa.
Bonjour.
Direction l'État de New York où un robot humanoïde va faire sa rentrée scolaire en septembre en tant que professeur.
Et oui, elle s'appelle Sally. C'est un robot humanoïde qui a été développé par une entreprise canadienne, Realbotix. Et dès la rentrée, elle va rejoindre le lycée de Salamanca dans l'État de New York pour des cours de sciences et de robotique. Alors l'idée ici, c'est pas de remplacer les professeurs qui seront toujours là physiquement dans les salles de classe. Sally, ce sera plutôt une sorte d'assistante pédagogique. Elle sera là en soutien pour répondre aux questions des élèves ou encore réexpliquer un exercice qui n'a pas été compris. Et une fois la journée finie, et c'est là que ça devient intéressant, Sally, elle ne disparaît pas complètement. Le robot, lui, il reste au lycée, mais son intelligence artificielle sera, elle, toujours accessible pour les élèves à la maison, sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. Et elle devient ainsi une sorte de professeur particulier disponible finalement 24 heures sur 24 qui sera capable de corriger les devoirs, de préparer un oral ou de créer une leçon sur mesure. Mmh. Cette expérience, elle s'inscrit dans un programme éducatif plus large qui a été lancé par Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, pour former les élèves au métier de la tech. Et si ça fonctionne, elle pourrait être très vite déployée dans d'autres établissements.
Alors, est-ce que l'entreprise a prévu des garde-fous quand même pour protéger un peu les enfants des dangers de l'IA ?
Alors oui, c'est même devenu l'argument numéro un de Realbotics. D'abord, Sally n'est pas équipée de reconnaissance faciale. Donc, pour identifier les élèves et avoir un historique sur eux, elle va se servir d'un numéro comme un matricule, en fait, dans une entreprise. Elle ne pourra pas non plus enregistrer les conversations. Donc, il n'y a pas de collecte de données. Son intelligence artificielle fonctionne sur un système fermé, sans connexion Internet. Ensuite, impossible de partir dans tous les sens. Si un élève essaye d'aborder un sujet qui ne concerne pas les cours. L'IA est programmée pour ramener la conversation à l'éducation. Elle a aussi été entraînée à réagir si un enfant aborde un sujet qui concerne du harcèlement ou une situation de détresse. Et puis, il y a un garde-fou assez intéressant. Les développeurs ont demandé à Sally d'assumer le « je ne sais pas ». Alors, ça paraît tout bête, hein, mais c'est justement ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'IA génératives. On leur reproche souvent d'inventer une réponse plutôt que de reconnaître qu'elles ne savent pas. Mais là, Sally, elle est programmée pour assumer ses limites et donc orienter l'élève vers un professeur humain si elle ne connaît pas la réponse.
Le « je ne sais pas » ne manque pas seulement à l'IA générative. Hein. Oui, c'est d'époque, en fait.
Humains aussi.
J'imagine que ça ne rassure quand même pas tout le monde, Léa. Comment réagissent les parents d'élèves ?
Alors, c'est assez partagé. En fait, certains trouvent que c'est une excellente idée de familiariser les jeunes avec l'intelligence artificielle. Mais je ne vous cache pas que d'autres parents sont beaucoup plus sceptiques et méfiants. Et ce n'est pas seulement à cause de l'IA, c'est aussi à cause de l'entreprise qui fabrique Sally. Parce qu'en fait, Realbotics s'est d'abord fait connaître avec les Real Dolls. En fait, c'est des robots de compagnons pour adultes. Plus concrètement, Sandra, c'est des robots sexuels hyper réalistes. Et ce n'est qu'en fait ensuite qu'elle a diversifié ses activités en créant des robots de service pour l'éducation, la santé, l'hôtellerie. Donc évidemment, voir cette même entreprise arriver aujourd'hui dans les salles de classe, ça interroge les parents. Surtout que si on regarde bien les images, pour ceux qui sont en télévision, en radio, on va essayer de vous les décrire. Ça reste quand même des robots qui sont très sexy, avec des bouches pulpeuses, du maquillage, des tenues moulantes. Donc en fait, ici, on reconnaît bien l'ADN de la marque, même si, d'après Realbotics, ces deux activités sont désormais totalement séparées avec des équipes différentes. L'entreprise veut même créer deux entités distinctes, même si, à l'heure où on se parle, ce n'est toujours pas fait.
Merci beaucoup, Léa Benaïm. Vous restez avec moi, on reste dans la robotique. C'est la French Tech.
Good morning business. French Tech.
Pas vraiment de la robotique d'ailleurs, mais c'est un robot IA aussi, un clone IA. C'est un dont on va parler avec Frédéric Mazzella, cofondateur de Fred24, président de Blablacar, co-président de France Digital. Bonjour Frédéric, on vous connaît bien évidemment sur cette Bonjour. Antenne. Vous venez donc de lancer votre clone IA qui s'appelle Fred24 avec la start-up Myria. Il va servir aux entrepreneurs parce que vous êtes très sollicité. Comment est venue cette idée Frédéric ?
Ah ouais, elle est venue simplement parce que bon, vous savez, quand vous avez des entrepreneurs qui vous contactent et qui vous posent plein de questions, vous avez envie de répondre, mais vous n'avez pas toujours l'agenda qui vous permet de le faire, parce que c'était quand même des centaines ou des milliers de personnes. Vous savez, quand on crée une société, on a plein de questions et c'est normal. Et on a envie d'y répondre. Moi, je sais que je fais à peu près tout pour répondre au maximum aux entrepreneurs. Après, il y a un certain volume qui fait que quand vous voulez travailler, vous n'avez plus le temps de répondre à tout le monde. Et bon, alors il y a plein de manières de transmettre quelque part une expérience. Hein. Vous pouvez soit écrire des livres, vous pouvez faire des conférences, vous pouvez répondre aux gens un par un. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a une nouvelle manière de transmettre de l'expérience, qui est simplement de mettre tout ce qu'on a dit et écrit, donc tout ce qu'on a extériorisé comme réponse par rapport aux problématiques rencontrées, dans une intelligence artificielle, vous l'entraînez dessus, et puis par la suite, quand vous lui posez des questions, eh bien, elle vient piocher dans tout ce que vous avez pu répondre avant pour apporter la réponse pertinente. Et puis vous savez, quand vous apportez une réponse pertinente à un entrepreneur ou une entrepreneuse sur son activité, eh bien, vous l'aidez à progresser, vous l'aidez à faire moins d'erreurs pour la suite et donc à avoir plus de succès.
Alors justement, vous parlez d'entraînement dans le même style. On peut se rappeler de Michel Polnareff qui avait aussi sorti un avatar IA pour que ses fans puissent lui poser des questions. Sauf qu'on a très vite vu les limites un petit peu de la technologie. Vous l'avez entraîné avec quoi cette IA, avec vos livres, avec votre conférence, vos mails, jusqu'à où vous êtes allé?
Oui, alors avec déjà beaucoup de contenu écrit et beaucoup de contenu oral, beaucoup de podcasts. Vous savez, dans les podcasts, il y a plein de questions qu'on vous pose justement, puisque c'est un format qui est intermédiaire, si vous voulez, entre une transmission, j'ai envie de dire, un petit peu verticale ou structurée, et une transmission plus qui répond à des questions d'ordre pratique, d'ordre usuel ou quotidien. Donc, il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de livres, beaucoup d'interviews. Et tout ça fait que sur FAT24, quand vous posez la question, il va pouvoir aller piocher directement la bonne réponse au bon moment en fonction de ce que vous lui avez présenté. Donc, ça, c'est quand même un gain de temps. Parce que au lieu de, vous savez, les podcasts ou toutes les autres formes de contenu sont très utilisées pour aller justement transmettre de l'expérience par toutes les personnes. Sauf que elles sont pas, comment dire, un podcast, il répond pas directement à votre question puisque ça va être la personne qui a posé la question qui va obtenir sa réponse. Et généralement, c'est le présentateur du podcast. Alors que quand vous venez devant l'intelligence artificielle, elle va directement aller vers la bonne réponse et vous n'avez pas besoin d'aller regarder je ne sais pas combien de dizaines d'heures de podcast pour avoir votre réponse. Donc ce genre de choses fait que ça accélère beaucoup la manière de transmettre.
Alors on est d'accord, c'est l'IA de Mistral, c'est français?
Oui, c'est tout à fait, c'est 100% French Tech, c'est-à-dire que c'est Mistral et également on peut appeler si on veut juste pouvoir parler directement à l'intelligence artificielle. On peut appeler à ce moment-là, la synthèse de voix est faite par Gradium, qui est une autre société française également. Et puis le tout, évidemment, ce jumeau IA, il est construit par Myria, qui est aussi une société française et qui se spécialise là-dedans. C'est une jeune société qui a déjà déployé plus d'une quarantaine de jumeaux numériques comme ça. C'est une nouvelle forme de transmission de connaissances. Ça marche très, très bien pour l'entrepreneuriat. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure des questions qui peuvent être posées justement à une intelligence artificielle. Bon, justement, du fait de, quelque part, mon profil d'entrepreneur, les personnes me posent des questions qui ont trait à l'entrepreneuriat. Vous savez, même quand je prends le métro, on me pitch. Les gens viennent me voir pour me pitcher leur projet. Donc, ils ont bien compris que je représentais un petit peu plus l'entrepreneuriat qu'autre chose. Donc, les questions sont vraiment portées sur comment j'améliore mon produit, comment je fais pour mieux grandir, comment je fais pour bien m'associer, comment je fais pour m'étendre à l'international. Enfin, voilà, toutes ces questions qu'on a quand on crée une société.
Est-ce que finalement, c'est pas le début d'une nouvelle économie où chaque entrepreneur va créer un petit peu son avatar et va vendre ses conseils plutôt que son temps?
Peut-être, c'est une manière en tout cas d'étendre une transmission d'expérience. Si vous voulez, c'est un petit peu comme, je sais pas, évidemment, on va pas comparer ça maintenant à cela, mais c'est un petit peu comme quand on a commencé à pouvoir écrire des livres. C'est une nouvelle manière d'aller aller plus loin sur la transmission d'expérience et donner de son temps, oui, parce que quand vous écrivez un livre, vous allez avoir des centaines ou des milliers de personnes qui peuvent accéder à un contenu, vous n'auriez pas eu le temps nécessairement de parler à ces centaines ou ces milliers de personnes. Bon, là, de la même manière, vous allez avoir un contenu qui est plus spécialisé, plus pertinent, même par rapport aux questions qui peuvent être posées. Vous n'avez pas besoin de lire tout le livre pour avoir la réponse à votre question. Vous pouvez juste poser votre question directement et vous aurez la réponse plus rapidement. Donc, c'est une manière de démultiplier pour n'importe qui la possibilité de transmettre des informations. Et c'est une manière pour chacun d'obtenir plus rapidement aussi des réponses à ses questions, puisque vous allez directement avoir quelqu'un qui vous répond de manière pertinente.
Bon, restons dans le concret. Combien ça coûte aux entrepreneurs de faire appel à votre Fred Vent? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits?
Oui, alors il y a déjà plus de 600 personnes qui ont interagi avec Fred 24 sur les 15 derniers jours. Donc déjà, autant dire que j'aurais pas pu moi-même répondre à 600 personnes. En tout cas, en plus, ils ont plusieurs questions. Donc c'est des dizaines de milliers de questions déjà qui ont été posées. Après, au niveau de la tarification, c'est gratuit au début. Quand vous posez un certain nombre de questions, je crois une dizaine. Et puis après, il y a une petite formule qui est à quelques dizaines d'euros par mois. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir poser autant de questions que vous voulez, parce que derrière, en fait, bon, il y a aussi la synthèse vocale, puis il y a aussi toute la technologie qui est déployée. Donc, on peut le faire gratuit pour un certain nombre de questions. Et après, nécessairement, il y a un petit coût pour supporter les coûts d'infrastructure. D'autant plus que voilà, Myria, qui est la société qui met en place cette solution-là, est une jeune société qui a été créée l'année dernière. Ils sont en pleine croissance, mais comme toute start-up, évidemment, ils sont en investissement. Donc c'est effectivement une nouvelle ère dans la possibilité de partager des connaissances qui demandent des investissements qui sont faits aujourd'hui. Et je pense que voilà, c'est utile pour les personnes qui ont envie d'aller me poser des questions ou poser des questions à d'autres entrepreneurs. Je suis pas le seul sur la plateforme. Il y a une quarantaine de jumeaux numériques qui ont été réalisés par Myria à ce jour.
Ouais.
Et ça permet d'avoir accès à différentes formes de coaching ou d'expérience des entrepreneurs un peu plus aguerris.
Merci beaucoup Frédéric Mazzella, cofondateur de Fred24, donc, et président de la Black Art, et président de France Digital, d'avoir été avec nous ce matin dans la French Tech. Dans un instant, on va parler des industriels du lait, de la loi d'urgence agricole également, avec le patron de la FNIL qui est dans Parole de Patron. À tout de suite.
Good morning business, Parole de Patron.
Parole de patron ce matin avec François-Xavier Huard, PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière, la FNIL, bonjour.
Bonjour, Sarah.
Merci d'être avec nous. La FNIL, on rappelle, 100 adhérents, 36 000 personnes employées, 300 sites. On parle aujourd'hui de 3 épisodes de canicule en moins de 2 mois, mais j'aimerais savoir très rapidement l'impact immédiat sur la filière lait en ce moment de cet été.
L'impact, il est immédiat puisqu'on l'a constaté, nous, dans la production laitière. On a en moyenne 10% de perte de production laitière au mois de juin. Parfois, c'est même monté jusqu'à 15% dans certaines zones, notamment la Bretagne, qui est une terre laitière d'excellence et qui a été particulièrement touchée par la canicule. Donc, on est aux premières loges dans la filière laitière pour constater les effets du réchauffement climatique.
Oui.
Et on est très inquiet aussi, notamment, du niveau des nappes phréatiques, du niveau de sécheresse. On a quasiment tous les départements aujourd'hui, même je pense que tous sont concernés par des alertes vigilance sécheresse. Et on est très inquiet pour le mois d'août, à la fois pour les fourrages, pour les éleveurs, parce qu'ils ont déjà attaqué les stocks de fourrage qui sont prévus pour l'hiver, et également pour le maintien de l'activité dans les laiteries et les fromagers.
C'est dans la loi d'urgence agricole dont on parle depuis plusieurs jours. Le traitement de l'eau, que faut-il en faire? Faut-il faire des réserves? Faut-il privilégier les agriculteurs? Vous, votre position par rapport à ces réserves d'eau, c'est quoi aujourd'hui?
La première position, c'est de se dire l'eau est la ressource prioritaire demain. C'est-à-dire que sans eau, on ne peut pas faire d'élevage. Sans eau, on ne peut pas faire non plus de produits laitiers. Donc c'est une ressource rare qui devient chère aussi et donc il faut la préserver. Donc, tout ce qui est possible de faire au niveau des élevages pour pouvoir effectivement... Et la loi d'urgence agricole permet des avancées là-dessus,
oui.
est bon à prendre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer qu'on continue à avoir de la ressource en eau demain. C'est-à-dire, faire de la rétention, c'est une chose. Mais il faut surtout pouvoir continuer à préserver cette ressource-là. Et donc, nous, on a engagé, notamment dans la filière laitière, un certain nombre d'efforts, notamment dans la réutilisation de l'eau, puisque le lait, c'est 88% d'eau. Et donc, la réglementation nous permet maintenant de réutiliser une partie de cette eau-là dans nos process industriels, et c'est une bonne chose et on va continuer à faire des efforts là-dessus.
Dans cette loi d'urgence agricole, le Sénat a réhabilité la mise en place d'un tunnel de prix. Alors, un tunnel de prix, c'est un prix qui doit rester dans une certaine fourchette. Vous, la FNIL, vous y êtes opposé, alors que les producteurs de lait sont plutôt pour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se joue ici en réalité?
Alors, en fait, ce qui se joue, c'est la question de la rémunération et du revenu à la fois des producteurs, mais de l'ensemble des maillons de la chaîne. Et bien entendu qu'on est totalement favorable à une rémunération juste, équitable de tous les maillons, en particulier des éleveurs. Mais ce qui est proposé aujourd'hui dans le tunnel de prix tel que la version du Sénat a été retenue est pour nous un contresens économique dans la mesure où il y a deux éléments qui nous inquiètent. Le premier, c'est qu'on oblige en fait à avoir une borne basse, c'est-à-dire dans cette espèce de tunnel où on a plutôt un plancher qu'un plafond, on ne peut pas avoir de prix qui soit inférieur au coût de production des éleveurs. Ce qui paraît plutôt une chose plutôt intelligente et de bon sens. Sauf que on a à peu près 30 à 40% de notre production laitière qui part sur des marchés à l'export et qui dépendent d'autres niveaux de cotation. C'est-à-dire, c'est des prix qui sont faits sur des cotations mondiales, que ça soit du beurre, de la poudre, des produits d'ingrédients, et qui ne dépendent pas uniquement d'un prix fixé par une loi en France. Et donc, si aujourd'hui on applique ce texte-là et qu'on nous impose un tunnel de prix, ce qui est une autre difficulté mise en place par la loi d'urgence agricole, ça veut dire que demain, on a potentiellement 7 milliards de litres de lait qu'on ne peut plus collecter et valoriser à des niveaux qu'on valorise aujourd'hui. Donc ça représente quand même la production de 14 000 exploitations laitières. Donc si c'est ça la solution à proposer à la souveraineté alimentaire, la seule chose à laquelle on va arriver, c'est qu'on va avoir plus d'importations et on aura moins d'élevage. Je suis pas sûr que ça soit l'objectif politique.
On le dit dans le titre, hein, c'est dit dans le titre, la loi d'urgence agricole. On est constamment à agir dans l'urgence, c'est ça le problème. Si on avait un peu de temps devant nous pour la filière lait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour justement qu'elle puisse prospérer?
Ce qui est important en fait, c'est qu'on puisse dégager des marges et des capacités d'investissement à la fois dans les élevages laitiers, mais également dans nos laiteries et nos fromageries. On l'a bien vu, on a besoin, face au réchauffement climatique, face à la nécessité d'être concurrentiel par rapport à nos voisins allemands, néerlandais, danois, qui produisent actuellement ce que les Français notamment consomment dans les fromages à ingrédients, ce qui est beaucoup plus consommé aujourd'hui en France que certains fromages AOP qui existent sur le marché, sur lesquels on est très bon. Surtout cette entrée de gamme et ce cœur de gamme, on a besoin d'un investissement. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est déjà s'assurer que ce qui est prévu dans les lois EGalim, les fameuses lois qui organisent la contractualisation entre les acteurs, il faut qu'on puisse s'assurer que ce qui est prévu dans la sanctuarisation du prix d'achat de la matière première agricole soit bien respecté. Et je regrette que, notamment dans la loi d'urgence agricole, on n'ait pas eu de mesures qui permettent d'être beaucoup plus actifs sur les sujets notamment des centrales d'achat qui contournent en fait une partie des règles nationales et qui ont été mises en place par un certain nombre d'acteurs de la distribution. Donc, on y reviendra certainement parce que je pense que les rapportrices au Sénat, notamment Anne-Catherine Loisier et Antoine Edgul, envisagent un nouveau texte à la rentrée.
C'est un sujet sur lequel on revient également souvent sur BFM Business. Merci beaucoup François-Xavier Huard, PDG de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va revenir sur l'arrivée du nouveau Premier ministre Ten Downing Street. Andy Burnham arrive avec une feuille de route très très chargée. Notre correspondant nous attend sur place. À tout de suite.
Good morning business. Le journal.
Un peu plus de 8h30, les titres, Léo.
Andy Burnham s'installe au 10 Downing Street aujourd'hui avec les dossiers économiques en haut de sa pile. On ira en direct à Londres dès le début de ce journal. La quasi-paralysie du détroit d'Ormuz fait renaître les craintes en Europe sur l'approvisionnement en kérosène. Et puis la Cour des comptes alerte ce matin, les pépites françaises du Cantique sont en train de devenir des proies. C'est donc le grand jour pour Andy Burnham. Le nouveau chef des travaillistes prend ses fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni. Ce midi, il succède à Keir Starmer pour devenir le sixième chef du gouvernement en 10 ans. Et il hérite aussi d'un certain nombre de dossiers économiques à gérer. Alors on part en direction de Londres ce matin. Baptiste Muckensturm en direct pour BFM Business. Andy Burnham compte déjà engager pas mal de projets de dépenses.
Absolument, Léo. Il veut rompre avec des décennies de néolibéralisme et un plan d'investissement stratégique sur 10 ans. Priorité au logement avec le plus grand programme de construction de logements municipaux depuis 1945. Il veut aussi réformer les transports publics avec des tickets à 2 livres maximum. Et puis, il veut s'attaquer à la crise de la dépendance en créant un service national de soins qui pourrait être même gratuit pour certains. Côté modernisation de l'État, on parle de la création d'un ministère de l'intelligence artificielle ici. Et puis, on souhaiterait aussi intégrer la science aux affaires économiques. La décentralisation est également au cœur du programme d'un dit Burnham, avec la création d'un Downing Street du Nord à Manchester, là où il a été maire, pour faire circuler le pouvoir dans les territoires. Et puis enfin, pour le coût de la vie, il envisage un soutien de plus de 3 milliards de livres par an pour faire baisser les factures d'énergie, notamment sur l'eau. Et concrètement, ça serait placer sous tutelle temporaire de l'État eh bien, la société Thames Water qui est en déficit assez large.
La question, Baptiste, c'est comment financer ce programme sans affoler les marchés?
Alors, c'est tout l'enjeu. Son équipe est consciente des craintes des marchés obligataires. Elle cherche des marges de manœuvre. Première économie nette, elle a été annoncée il y a quelques heures. Ce serait l'abandon du très coûteux projet de carte d'identité numérique qui avait été initié par Keir Starmer, dont les crédits seraient réorientés vers le coût de la vie. Et puis, Burnham envisage aussi une refonte fiscale, la création d'une tranche supérieure d'impôts de plus de 50% avec une hausse de la taxe sur les plus-values et une surtaxe d'habitation sur les résidences de luxe, notamment à Londres.
Pour financer la question du soin qu'on évoquait juste avant, il évoque la redevance de soins progressifs ou même un prélèvement sur les successions qui pourrait aller jusqu'à 10%. Tout ça, bien sûr, en respectant le ne pas toucher ni à la TVA, ni aux cotisations sociales.
Merci Baptiste Muckensturm à Londres. Par ailleurs, 9e nuit consécutive de frappes américaines sur l'Iran, Léo.
Des centres de commandement militaire, des sites de défense aériens et aussi des réseaux de communication ont été visés ces dernières heures quand de son côté, Téhéran poursuit ses ripostes sur ses voisins du Golfe et sur les navires dans le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, appelle cette nuit la communauté internationale à s'engager aux côtés des États-Unis.
Il est clair que l'Iran, du moins certains responsables en Iran, veulent contrôler le détroit et l'utiliser comme levier contre le reste du monde. Les États-Unis feront et continueront de faire ce qu'ils doivent faire pour protéger le transport maritime mondial. Mais les autres pays doivent commencer à intensifier leurs efforts et fournir une aide pour partager ce fardeau, qu'il s'agisse de moyens matériels ou financiers.
Voilà la déclaration de Marco Rubio dans la nuit au moment où le trafic est quasiment paralysé dans le détroit d'Ormuz et quand les cours du pétrole redécollent, Nathan Cocampo.
Le Brent dépasse à nouveau les 90 dollars, au plus haut depuis le mois de juin et la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Le WTI a dépassé les 85 dollars avant de redescendre un peu. Alors qu'aucun transporteur de GNL n'a été visible traversant le détroit depuis jeudi, 4 navires seulement ont réussi à effectuer la traversée du détroit hier contre 8 la veille selon les données maritimes et une installation pétrolière clé au Koweït a été touchée ce week-end. Les gardiens de la Révolution affirment avoir arrêté par la force deux nouveaux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit cette nuit et préviennent aucune goutte de pétrole ni de gaz ne traversera le détroit tant que les actions militaires américaines dans la région se poursuivront. Alors qu'un cinquième du pétrole transporté par voie maritime transite par Hormuz, une note récente de Capital Economics s'interpelle. Si la fermeture du détroit se poursuit, le Brent pourrait grimper à 120, voire 150 dollars le baril dans les prochaines semaines.
Et dans ce contexte de tension sur le pétrole, nous ce qu'on regarde en Europe, ce sont les réserves de kérosène, Nathan, elles sont très basses.
Moins d'un mois de stock, c'est ce qui reste aux compagnies aériennes selon plusieurs experts. Un niveau tendu dans cette période estivale de départ en vacances. En temps normal, la moitié du kérosène consommé provient des pays du Golfe. Avec le blocage du détroit, pas le choix. Les compagnies devront très certainement revoir leur programme de vol dans les prochaines semaines pour limiter leur consommation de carburant. Selon les dernières prévisions, si les perturbations se poursuivent, l'Europe pourrait connaître un déficit d'approvisionnement de 600 000 barils par jour au troisième trimestre. On en est encore loin et Bruxelles travaille tout de même sur différents scénarios de crise et pourrait, le cas échéant, proposer une coordination volontaire pour redistribuer le kérosène à travers tout le territoire et ainsi éviter des pénuries dans certains aéroports.
Merci Nathan. Et alors pour le secteur aéronautique, c'est le coup d'envoi ce matin du salon de Farnborough où le contexte géopolitique pourrait bien peser sur le volume des commandes à destination d'Airbus et de Boeing. Reste que l'événement se tient dans un contexte là favorable pour le champion local Rolls-Royce, le motoriste britannique, ancien maillon faible du secteur en Europe, qui en fait affiche désormais des résultats records, Clara Bidot.
Rolls-Royce arrive à Farnborough en pleine renaissance. Le motoriste britannique, presque à terre pendant le Covid, a dégagé l'an dernier plus de 4 milliards d'euros de bénéfices opérationnels et vise encore davantage cette année. Depuis son point bas de 2022, Rolls-Royce a vu sa valorisation boursière multipliée par près de 18 pour atteindre aujourd'hui près de 140 milliards d'euros. Son principal moteur, ce sont les gros porteurs d'Airbus et de Boeing. Et c'est simple, plus ils volent, plus Rolls-Royce encaisse, car le groupe facture surtout leur entretien pendant toute leur durée de vie. Les heures de vol de ces moteurs dépassent désormais leur niveau d'avant-crise, tandis que les commandes d'A350 remplissent les carnets. Le groupe profite aussi du réarmement avec les moteurs d'avions de combat, de sous-marins ou de blindés et du boom des data centers qui achètent ces groupes électrogènes. Mais ce succès crée un nouveau problème, Rolls-Royce manque encore de pièces et de capacités de maintenance. Après son redressement financier, son véritable défi est désormais de tenir une cadence industrielle devenue effrénée.
Les pépites françaises de l'informatique quantique sont-elles en position de faiblesse, Léo ?
La France a réussi en tout cas à faire émerger plusieurs acteurs crédibles. Mais selon la Cour des comptes, qui vient de publier un rapport sur le soutien de l'État au secteur, toutes ces pépites risquent maintenant de passer sous pavillon étranger, Jean-Baptiste Huette.
Le secteur entre dans sa phase la plus coûteuse. Il faut désormais transformer les prototypes en machines industrielles alors que le marché n'existe pratiquement pas encore. L'exemple britannique est un avertissement. Oxford Ionics, remarqué pour ses avancées technologiques, a été racheté quelques mois plus tard par une entreprise américaine. En France, Pascal par exemple, société en pointe, plus de 300 salariés, valorisation qui pourrait approcher les 2 milliards de dollars, mais sa levée de fonds de 100 millions d'euros en 2023 reste, selon la Cour des comptes, 10 fois inférieure à celle de certains concurrents étrangers. Même les 340 millions d'euros annoncés pour préparer son entrée au Nasdaq doivent être financés pour moitié par des investisseurs étrangers. Autre exemple, l'entrée il y a quelques semaines de Nvidia au capital d'Alice et Bob. La France ne compte qu'un seul fonds d'investissement spécialisé dans le quantique. À titre de comparaison, une entreprise américaine a levé 1 milliard de dollars en une seule opération en 2025. Résultat, malgré le 1,5 milliard d'euros de fonds publics prévus par la France depuis 2021, les startups restent sous-capitalisées. La Cour des comptes parle désormais d'une véritable guerre d'attrition. L'État a financé leur naissance, mais sans capitaux privés supplémentaires. D'autres pays pourraient financer leur croissance et récupérer la technologie.
8h39, les marchés. Dans le rouge ce matin, cette tendance avant d'ouvrir dans 20 minutes, Nicolas.
Toujours un CAC 40 et un DAX orienté dans le rouge hein, selon les contrats futurs avec notamment un baril de Brent toujours aux alentours des 90$, un WTI aux alentours des 84$ et plusieurs questions hein, sur les marchés. Déjà, est-ce que cette hausse des cours du pétrole va influer sur la décision de politique monétaire de la BCE qui aura lieu donc jeudi? Est-ce que le secteur technologique va continuer à exprimer des doutes comme on le voit depuis plusieurs jours avec notamment ce secteur des semi-conducteurs qui a signé sa pire semaine en matière de performance depuis plus d'un an la semaine dernière. On a vu l'indice SOX reculer de 10%, on a vu l'indice Philadelphia semi-conducteur reculer de 10% également la semaine dernière, un recul qui s'explique notamment par la sortie d'un certain nombre d'acteurs du marché après avoir tenu pendant plusieurs semaines des stratégies dites des momentum, à savoir de miser sur la poursuite de la hausse des actions enregistrant les meilleures performances. Il y a également des questionnements qui nous viennent de Chine quand on a vu des acteurs comme DeepSeek, mais beaucoup plus récemment ce week-end Moonshot qui sortent des modèles IA capables de concurrencer directement les géants américains à moindre coût. Est-ce que ça remet en cause des stratégies d'investissement coûteuses, notamment de la part des hyperscalers? Ça fait partie des questions que les marchés vont se poser. Et puis, les investisseurs vont également suivre le niveau de l'OAT, hein, puisque on voit que l'OAT 10 ans se rapproche des 4%. On est à 3,96 à l'heure actuelle. L'OAT 30 ans est lui à 4,72%. Un petit mot pour conclure également des marchés asiatiques. Alors les marchés japonais sont fermés aujourd'hui, mais le Shanghai Composite recule à moins 0,40%, tandis que le Hang Seng, lui, continue à afficher une hausse de près de 2%.
Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve dans un instant pour le club de la bourse. Mais avant cela, le monde qui bouge.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Le monde qui bouge en Inde. Ce matin, Annalisa Capellini, mouvement des cafards prend de l'ampleur. Grande manifestation cette nuit. Elle a été dispersée depuis. C'est intéressant. Est-ce que ces cafards, ces jeunes, peuvent faire tomber Narendra Modi?
C'est ce qu'ils espèrent. C'est ce qu'ils demandaient avec cette manifestation. Oui, elle a été dispersée, mais on peut penser très raisonnablement qu'elle ne sera pas la dernière. En réalité, ce n'est pas prêt d'arriver. Non, Narendra Modi n'est pas prêt de tomber à cause des cafards parce qu'il a une majorité parlementaire solide. Donc, pour l'instant, ça ne représente pas une menace politique directe. Mais il y a quand même une question de coût politique pour Narendra Modi, parce que ce mouvement touche un point très sensible dans le pays en ce moment, et c'est celui de la jeunesse, parce que ce mouvement contestataire est celui d'une jeunesse qui est considérée comme des cafards par une partie de la société indienne. C'est comme ça qu'ils ont été appelés par le président de la Cour suprême, qui sous-entendait que cette partie de la jeunesse est inutile, qu'elle est sale, qu'elle vit dans les interstices de la société, sans vraiment y trouver sa place. Mais les cafards, c'est aussi le nom que cette jeunesse a choisi de récupérer et de s'approprier pour rappeler au pouvoir que finalement, bah oui, elle existe et que, un peu comme les cafards, ça va être difficile de s'en débarrasser, de la cacher sous le tapis.
Qu'est-ce qu'ils dénoncent réellement?
Alors pour eux, le problème, c'est l'accès à l'éducation supérieure notamment, et en particulier les concours pour rentrer à l'université, sur la transparence desquels pèsent des forts soupçons en ce moment en Inde. Alors il faut dire que dans le pays, pour des millions de jeunes, ces concours-là sont le moyen pour accéder à la classe moyenne, pour arriver à la fonction publique, pour arriver aux métiers les plus prestigieux. Donc c'est un moyen d'ascension sociale. Et donc, si les sujets fuitent, s'il y a des doutes sur la transparence, si les concours sont annulés, eh bien finalement, c'est l'idée même de méritocratie qui est derrière, qui s'effondre, avec une grosse question: est-ce que l'État, et donc est-ce que Narendra Modi, est capable de garantir des règles du jeu équitables comme il le promet? En plus, à cette colère se superpose un autre problème, c'est le problème du chômage des jeunes, et surtout dessous du chômage des diplômés. Alors, c'est contradictoire, mais 2/3 des chômeurs étaient diplômés en 2023. Il y a 20 ans, c'était seulement 1/3. Et il suffit de regarder les chiffres. Ces dernières années, l'Inde forme 5 millions de diplômés chaque année, mais seulement 3 millions sont employés seulement. Donc, vous voyez qu'il y a 2 millions qu'on perd en route quelque part, qui ne sont pas employés. Et il y a un décalage entre le nombre de diplômés formés avec la promesse d'un emploi meilleur et la réalité d'un marché de l'emploi qui n'est pas prêt à tous les accueillir.
Il faut faire attention à ces mouvements. Il y en a eu d'autres en Asie cette année.
Énormément. Au Bangladesh, au Sri Lanka, au Népal, tout ça, c'est tous ces mouvements ces dernières années. Alors, dans tous ces pays, c'est des soulèvements de la Gen Z qui se sent trahis par un système qui ne fonctionne pas comme il devrait. Dans tous ces pays, ces mouvements ont contribué à faire tomber les gouvernements. On l'a dit, ça ne sera sans doute pas le cas en Inde, mais pour le gouvernement, c'est essentiel de maîtriser ce soulèvement. C'est une question d'image et une question de crédibilité.
Merci Annalisa Capellini, chronique à retrouver comme tous les jours sur notre appli, sur notre site Le Monde qui bouge. Dans un instant, le Club de la Bourse, nous recevons avec Nicolas Pagnès, Jean-François Robin, chef économiste de Natixis CIB, et Loïc Bécu, gérant diversifié allocation d'actifs chez Siena. À tout de suite.